Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 14 août 2019. En direct de Washington, Idriss Assadoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Niger, 4 soldats de l'armée gouvernementale ont été tués par l'explosion d'un engin dans le sud-est.
Au Mali, 150 enfants tués dans des attaques en 2019 et 377 000 autres ont besoin de protection, selon l'UNICEF.
À Hong Kong, accalmie à l'aéroport, mais la ville reste sous tension, alors que Pékin accentue ses menaces d'intervention.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump retarde l'imposition de tarifs douaniers supplémentaires de 10% sur les produits électroniques chinois.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Niger, 4 militaires nigériens ont été tués en roulant avec leur véhicule sur un engin explosif près de Bosso, ville du sud-est, cible régulière des raids du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. C'est ce qu'ont indiqué hier à l'AFP des sources sécuritaires. Les 4 soldats tués appartenaient à la force multinationale mixte Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun qui opère depuis 2015 dans le bassin du lac Tchad contre Boko Haram. L'incident est survenu samedi dernier, mais il n'a pas été divulgué. Il n'a été divulgué que ce mardi en raison de la fête de l'Eid el-Kébir, célébrée dimanche et lundi au Niger, ont expliqué les mêmes sources.
Au Mali, plus de 150 enfants ont été tués dans des attaques pendant le premier semestre 2019 et quelques 377 000 mineurs ont besoin d'une protection, selon l'UNICEF. L'agence onusienne relève ce qu'elle a appelé une forte augmentation de violations graves commises contre les enfants. Le point avec Jean-Roger Bion.
Plus de 150 enfants ont été tués au cours du premier semestre et 75 ont été blessés lors d'attaques violentes. Le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les groupes armés ont doublé par rapport à la même période en 2018 et plus de 900 écoles restent fermées en raison de l'insécurité selon le communiqué de l'UNICEF. La directrice exécutive de l'UNICEF, Henrietta Fore, citée dans le communiqué, estime que plus de 377 000 enfants ont besoin d'une assistance en matière de protection au Mali. L'agence onusienne souligne qu'elle aurait besoin de 4 millions de dollars en 2019 pour répondre aux besoins de protection des femmes et des enfants dans le pays. Dans un rapport publié la semaine dernière, la MINUSMA mission de l'ONU au Mali avait indiqué que 22 enfants âgés d'un an à 12 ans, dont 11 filles et 11 garçons, figuraient parmi les 35 personnes tuées lors de l'attaque le 9 juin contre le village de Gon de Sobaneda, dont la plupart ont été brûlées vives ou mortes asphyxiées dans leur maison incendiée.
En Méditerranée, l'Ocean Viking a sauvé en 4 missions 356 personnes qui étaient à bord de canots de fortune. Le bateau s'éloigne de Libye en espérant trouver un port d'accueil. Le point avec Michel Joseph.
Le bateau a quitté la zone de recherche et de secours libyenne et attend de recevoir des indications sur un port de débarquement, ont écrit dans un communiqué les ONG SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières qui opèrent le navire. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a demandé au gouvernement européen de consentir au débarquement des quelques 500 personnes secourues ces derniers jours en Méditerranée, dont 151 à bord du navire humanitaire espagnol Open Arms qui patiente depuis plusieurs jours au large de l'île italienne de Lampedusa. Il s'agit d'une course contre le temps, a insisté Vincent Costel, envoyé spécial du HCR, en précisant que des intempéries sont attendues en mer. Arrivés à bord de l'Ocean Viking, 105 rescapés, en majorité des Soudanais, ont rapporté qu'un autre canot de fortune était parti en même temps qu'eux dimanche. Une poignée de bateaux humanitaires poursuivent leur mission de sauvetage, mais à chaque fois avec l'incertitude sur le port de débarquement. Lundi, Malte a rejeté la requête de l'Ocean Viking et les autorités italiennes l'ont renvoyé vers les Libyens.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'aéroport de Hong Kong a retrouvé ce mercredi matin une activité normale au lendemain d'une deuxième journée de chaos et d'affrontements entre policiers et manifestants pro-démocratie, alors que Pékin accentue ses menaces d'intervention. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Des heurts se sont produits entre manifestants et forces de police mardi soir à l'aéroport international de Hong Kong, dont le trafic a à nouveau été suspendu pour la deuxième journée consécutive, alors que la ville s'enfonce dans le conflit. La chef de l'exécutif local, Carrie Lam, a estimé que le mouvement de contestation a plongé Hong Kong dans un état de panique et de chaos dont le territoire mettra du temps à se relever. Les services aéroportuaires ont indiqué que le trafic aérien avait été sérieusement perturbé et que les voyageurs en partance n'avaient pas réussi à se rendre au guichet d'embarquement. Le mouvement de contestation né en avril du rejet d'un projet de loi qui aurait permis l'extradition de suspects vers la Chine continentale s'est élargi depuis le mois de juin à des revendications plus larges dont la démission de Carrie Lam et la protection des libertés de l'autonomie dont jouit l'ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. La contestation qui pèse aussi sur l'activité économique du territoire constitue un défi sans précédent pour le président chinois Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Mardi, des médias officiels chinois ont qualifié les manifestants de gangsters, faisant planer le spectre d'une intervention des forces de sécurité.
Et la Chine a encore durci le ton mercredi à l'encontre des manifestants pro-démocratie de Hong Kong au lendemain du passage à tabac de deux Chinois du continent à l'aéroport du territoire autonome. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes quasi-terroristes, a déclaré dans un communiqué Xu Luying, porte-parole du bureau des affaires de Hong Kong et de Macao du gouvernement chinois.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a relâché la pression sur Pékin en retardant l'imposition de tarifs douaniers sur une série de produits de grande consommation. Des détails avec Yacouba Ouedraogo.
Le gouvernement américain a reporté au 15 décembre l'instauration de tarifs douaniers supplémentaires de 10% sur les produits électroniques chinois qui étaient prévus entrer en vigueur le 1er septembre. Les responsables américains au commerce ont précisé que le report concerne les téléphones portables, les ordinateurs portables et autres consoles de jeux made in China. Cette taxation devrait toucher environ 550 milliards de dollars de biens chinois importés chaque année aux États-Unis. Nous faisons ça pour Noël, juste au cas où cela aurait un impact sur le consommateur américain, a déclaré Donald Trump. Il a ajouté que pour l'instant, ces taxes aux importations chinoises n'ont eu aucun effet, ce que nient certains économistes et le FMI, qui insistent au contraire sur l'effet néfaste de la tension commerciale entre les deux pays. Hier, les responsables américains et chinois des négociations ont eu un entretien téléphonique qualifié par le président américain de très productif. Les tensions entre Pékin et Washington étaient montées d'un cran lorsque Washington a accusé la Chine de manipuler sa monnaie.
Ken Cuccinelli, le directeur par intérim des services américains de l'immigration, a détourné mardi le célèbre poème « Le nouveau colosse » inscrit sur la statue de la liberté pour défendre la politique migratoire de l'administration Trump, politique critiquée par des candidats démocrates à la présidence, notamment pour son manque d'humanisme. « Envoyez-moi vos fatigués, vos pauvres qui sont autosuffisants et ne deviendront pas une charge publique », a déclamé ironiquement Ken Cuccinelli sur la radio nationale NPR. Le poème de la Statue de la Liberté ne fait pas référence à l'autosuffisance financière des nouveaux arrivants en Amérique. Nous reviendrons sur les nouvelles règles de l'administration Trump sur l'immigration en seconde partie de cette édition.
Des affrontements dans le nord-ouest de la Syrie entre les forces loyales à Damas et des forces dominées par des djihadistes ont fait mardi 59 morts dans les deux camps, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Depuis fin avril, plus de 816 civils ont été tués dans les violences, ainsi que plus de 1200 combattants djihadistes et rebelles et plus de 1000 membres des forces pro-régime, selon l'ONG. Plus de 400 000 personnes ont été déplacées, d'après l'ONU.
Au Venezuela, le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, s'est posé mardi en rempart du président socialiste Nicolas Maduro, assurant qu'il n'y aura pas de coup d'État, ni de gouvernement de facto, ni une quelconque transition dans ce pays. Il a déclaré au cours d'une cérémonie officielle que ces hommes n'étaient pas susceptibles de changer de camp. Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim en janvier et a été reconnu par une cinquantaine de pays dont les États-Unis, n'a pas réussi à mettre l'armée de son côté malgré plusieurs tentatives.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Le gouvernement camerounais compte réduire de 307,5 milliards de francs CFA les dépenses durant cette année budgétaire et en 2020. L'importation de poissons congelés va perdre à la fin de l'exercice 71 milliards de francs CFA d'avantages fiscaux tant en termes de TVA que des droits de douane. L'an prochain, la suppression des dépenses fiscales touchera les importations de farine et de riz avec un total de 98 milliards de francs CFA. Le gouvernement veut aussi rendre effective la suppression de l'exonération de TVA pour les primes d'assurance vie. Des défenseurs de l'environnement nigérien et internationaux ont lancé une pétition contre le déclassement de la moitié de la plus grande réserve naturelle d'Afrique dans l'est du Niger. En juin, le gouvernement de Niamey avait décidé de déplacer des limites de la réserve pour se conformer au contrat de partage de production qui le lie depuis 2008 à China National Petroleum Corporation. Selon les autorités, une partie de la réserve empiète sur les blocs pétroliers attribués à SNPC. Cette décision exclut près de 45 000 km² de l'aire protégée et entraînerait la disparition de certaines espèces menacées. Terminons cette minute éco par le distributeur sud-africain Stenoff qui veut supprimer des emplois et vendre des actifs pour devenir une société de portefeuille spécialisée dans la vente au détail. C'est son seul espoir de survivre au scandale qui le frappe et qui est relatif à une fraude comptable de 7 milliards de dollars. Stenoff enregistre des pertes pouvant atteindre 4 milliards de dollars par an depuis décembre 2017.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Sénégal, le Mozambique et le Nigeria qualifiés pour les quarts de finale de l'Afrobasket féminin.
Oui, un match comptant pour la troisième et dernière journée des matchs de groupe. Le Sénégal a laminé l'Égypte 86-47. De son côté, le Mozambique a pris la mesure du Cap-Vert 60-51 et valide son ticket pour les quarts. Leader du groupe avant ce match, les Mozambicaines ont bien débuté leur match en remportant les deux premiers quarts-temps, 10-3 et 27-21. Elles ont gardé la main au terme du troisième quart-temps avant de s'imposer 60-51. Dans la seconde rencontre de la journée d'hier, la RDC est tombée devant le Mali 82-56. Pour sa part, le Nigeria a écrasé le Cameroun 106-39 et s'est aussi qualifié pour les quarts de finale.
Amende contre Manchester City pour transfert de joueurs mineurs.
La FIFA a infligé une amende d'environ 340 000 euros à Manchester City pour avoir enfreint les règlements sur les transferts de joueurs mineurs. Le club champion d'Angleterre qui risquait jusqu'à une interdiction de recrutement, ce dont a écopé son rival Chelsea pour les mêmes motifs, a été finalement mis à l'amende par la commission de discipline de la FIFA. L'instance mondiale a expliqué avoir, je cite, tenu compte du fait que Manchester City a reconnu sa responsabilité. Selon les citizens, l'amende porte sur le transfert international de joueurs de moins de 18 ans, notamment en ce qui concerne leur période d'essai et leur participation à des matchs amicaux.
Le PSG inflexible face aux émissaires du Barça pour Neymar.
Des représentants du FC Barcelone se sont rendus hier à Paris pour discuter avec ceux du Paris Saint-Germain d'un éventuel retour au Barça de la star brésilienne Neymar. Selon RMC et Le Parisien, la réunion n'a débouché sur aucun accord, ni même une avancée notoire, le PSG se montrant inflexible sur la contrepartie exigée. Selon certains médias catalans, Barcelone offrirait un accord qui inclut des joueurs comme Philippe Coutinho ou Ivan Rakitic. Le Real Madrid ou le FC Barcelone sont les destinations le plus souvent citées pour Neymar, qui a été transféré du Barça à Paris pour 222 millions d'euros en 2017.
Athlétisme, des frères norvégiens veulent aider Kipchoge à passer sous les deux heures.
Oui, les trois frères athlètes norvégiens, Henrik, Philippe et Jacob Ingebrigtsen, seront présents le 12 octobre à Vienne pour aider le Kenyan Eliud Kipchoge dans sa tentative de courir un marathon en moins de deux heures. Le champion olympique 2016 et recordman du monde du marathon se lance pour la deuxième fois dans ce défi privé. Il avait couru les 42 km en 2h25 sur l'autodrome de Monza en Italie en mai 2017. Aidé par un ravitaillement sur mesure, une voiture et plusieurs coureurs. Cette performance n'a pas été homologuée par la Fédération internationale d'athlétisme compte tenu de ses conditions.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ebola en République démocratique du Congo, notre correspondante Patricia Huyon s'est rendue dans une crèche assez spéciale à côté du centre de traitement Ebola à Beni. Il s'agit d'une crèche qui accueille les bébés de patientes hospitalisées en attendant de voir si ceux-ci développent des symptômes. Ce sont des survivantes d'Ebola qui s'occupent de ces enfants car elles sont immunisées. Le reportage de Patricia Huyon.
La face s'appelle Joël, il a des mots.
Gisèle est infirmière, elle travaille dans cette crèche dont les murs ont été peints de personnages de dessins animés. 6 enfants y sont hébergés, les bébés sont considérés comme des contacts à risque. Ils doivent être isolés du reste de la famille.
C'est sa maman qui a présenté les signes d'Ebola, alors on l'avait pris pour l'amener là-bas au centre des transistes. Le premier sévrage semble toujours difficile pour les enfants. On leur donne des jouets, on leur donne l'affection comme si ce sont nos enfants.
Gisèle berce le petit garçon, elle ne porte ni gants ni masque. Elle est immunisée au virus auquel elle a elle-même survécu après avoir été infectée par une patiente dont elle s'occupait.
Après la mort de cette malade, on avait pris l'échantillon, alors on avait dit qu'elle est confirmée. C'est à ce moment, 3 jours après, moi aussi j'ai commencé à présenter les symptômes. Je me suis rendue vite au centre de traitement pour passer 14 jours là.
Comme Gisèle, 12 autres femmes travaillent dans cette crèche financée par l'UNICEF. Elle est gérée par une religieuse, sœur Sabrine.
Les mamans ne voulaient pas venir avant parce qu'elles avaient peur de se séparer de leurs enfants. Et c'est ça l'importance de la crèche pour que les mamans puissent venir aux soins.
Les enfants ici peuvent avoir contracté le virus. La période d'incubation, bien que souvent plus courte, peut s'étendre jusqu'à 21 jours.
On ne sait pas s'ils ont la maladie. Dès que les signes se présentent, directement nous alertons.
C'est le cas d'un nourrisson enveloppé dans un pagne sur un lit. Il est arrivé la veille.
L'enfant a 10 jours, sa maman est confirmée positive. C'est un petit garçon.
Une équipe de surveillance du ministère de la Santé qui recense les personnes avec qui les malades ont été en contact est venue effectuer sa visite quotidienne.
Le bébé a la fièvre de 38,8. Si le résultat est positif, alors on va l'envoyer au CT pour le traitement.
Il arrive souvent que des bébés hébergés dans la crèche développent eux-mêmes des symptômes d'Ebola après quelques jours. Ils doivent alors être transférés au centre de traitement. En détectant les symptômes au plus tôt, leurs chances de survie augmentent. À Beni, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
RDC toujours, le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, la capitale, a interdit aux enfants vivant dans la rue de quémander. Il a aussi demandé à la police de faire appliquer cette interdiction à toute personne qui distribue de l'argent en public. Il s'agit là de la dernière d'une série de mesures concernant Kinshasa, dont celle sur les heures d'ouverture des bars. Eddie Isango a joint le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila.
Aucun pense qu'en donnant de l'argent aux chégués, aux enfants de la rue, c'est une façon de les aider. Non, loin s'en faut. Au contraire, plus vous leur donnez d'argent, plus ils viennent nombreux. Plus nos enfants qui vivent paisiblement dans des maisons vont sortir pour aller aussi mendier et devenir aussi des chégués. Qu'on les chante dans des chansons, ils sont soutenus par des musiciens, ils sont soutenus également par ceux-là qui circulent sur le boulevard en voiture. Dans 5 ans, nous aurons du mal à gérer cette population qui vit dans la rue, tout simplement parce qu'en venant dans la rue, les Congolais, les Quinois, ils ont un peu de moyens, leur donnent de l'argent. Mais s'ils ont besoin de leur donner raison, si le paisible citoyen tient à encourager ces actes, cette façon de faire, cette façon de donner de l'argent aux chégués, ben, ils n'ont qu'à les inviter chez eux, à la maison. En ce moment-là, je vais me réveiller, il n'y a plus de racolage. Sur la voie publique, ce n'est pas une bonne chose. C'est ce qu'on appelle le racolage.
Les enfants qui sont dans la rue, combien sont-ils aujourd'hui dans la ville de Kinshasa?
C'est vrai, il est difficile pour nous aujourd'hui d'établir le nombre exact de ces enfants qui vivent dans la rue. Mais c'est ce que j'en pense. Et ce n'est pas tout le monde qui vit dans la rue. Ils sont nombreux à vivre dans la rue pour mendier, pour faire la manche. Mais en même temps, ils commettent beaucoup de bévues. Même ceux-là qui vivent dans des toits parentales viennent aussi semer les désordres dans des rues. Il n'y a pas que les enfants de la rue, c'est un peu tout le monde.
Certains ont été chassés de leur maison parce qu'accusés de sorcellerie. certains n'ont pas de parents, certains sont partis d'eux-mêmes, mais en interdisant aux gens de leur donner l'argent, quelles mesures vous prenez pour qu'ils survivent quand même?
S'il existe des parents qui ont chassé leurs enfants mineurs, alors ces parents-là méritent aussi la rigueur de la loi. Je pense que nous allons nous en occuper, nous allons les interpeller, il ne faudra pas les envoyer en prison.
Et pour ceux qui n'ont pas de parents?
À Kinshasa, ici, nous avons des orphelinats, il y en a beaucoup.
Mais est-ce que c'est suffisant à Kinshasa?
Bon, s'ils viennent dans la rue, c'est parce qu'on leur donne l'argent. Si on ne leur donne pas l'argent, ils ne viendront pas dans la rue.
Cette opération rentre dans ce que vous avez déclenché, communément appelé Kinbopeto, Kin propre.
C'est un état d'esprit. Si c'est que les Congolais veulent désormais avoir une ville complètement assainie, ben, pendant temps, nous allons aussi nous occuper des véhicules avec des volants à droite. Nous allons prendre des jeux pour toi. Nous allons nous occuper aussi des véhicules qui n'ont pas de feu, qui n'ont pas de phare, qui n'ont pas de rétroviseur. Il y a des chauffeurs qui circulent ici sans permis de conduire. Il s'agit de la salubrité, il s'agit de la circulation, il s'agit de comportement aussi. Nous avons signé il y a une semaine une note circulaire interdisant tout lotissement anarchique. C'est-à-dire que dans les jours qui viennent, avant de faire un lotissement, nous devons absolument viabiliser les sites, c'est-à-dire aménager les avenues, aménager également les services sociaux de base, notamment tout ce qui est dispensaire, hôpital, marché et pharmacie. Nous voulons avoir une ville attrayante, une ville qui bouge, une ville qui respecte les normes urbanistiques également.
Le gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque année à l'initiative de l'ONU. L'occasion de braquer les projecteurs sur les jeunes d'Afrique, le continent avec la population la plus jeune au monde. L'Afrique en tire-t-elle profit? Mais pourquoi les défis tels que l'emploi, l'éducation et la migration des jeunes perdurent-ils? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Cameroun, le volleyball suscite un engouement indéniable chez les jeunes qui se forment de plus en plus sur le tas dans la rue. Comme par exemple dans le quartier Messa à Yaoundé. Reportage de notre correspondant Emmanuel Julentap.
On lève le ballon vers le haut.
William Ondo est le formateur des jeunes apprenants de volleyball au quartier Messa. Sous sa coordination ce samedi, une dizaine de jeunes, des garçons et des filles, prennent part à la séance d'entraînement.
Séance d'entraînement pour les enfants qui aiment le volleyball.
William Ondo, entraîneur de Team Messa Volleyball.
Team Messa Volleyball compte toutes les tranches d'âge. La première tranche va de 4 ans à 12 ans. Et la deuxième tranche va de 12 ans à 16 ans. Et enfin de 16 ans à 19 ans.
Christian a 10 ans, il est l'un des jeunes à la formation. Dans un coin du stade, il s'applique avec un ballon de volley-ball.
Le volley, ça permet de donner un peu de force à les mains. On nous a mis au stade, on a appris à être où on doit être.
Le stade ici est un espace ouvert aux intempéries. Entouré d'une grille en fer, d'un mur en béton, 2,5 mètres. Quelques marches ont été aménagées sur le côté du terrain pour servir de gradin. Les joueurs, quant à eux, évoluent sur un sol dur en ciment. En cas de blessure, l'équipe dispose d'une petite infirmerie.
Ah, c'est dangereux, mais le pays n'a pas assez de moyens, donc on se bat avec.
Karine a 16 ans. Elle dispute le championnat national cadet de volleyball.
En vacances, on s'entraîne de lundi à vendredi. Bon, et en temps de cadet, c'est 3 fois par semaine.
Est-ce que le fait que les volleyeuses soient champions d'Afrique, est-ce que ça t'a motivé?
Oui, ça m'a beaucoup motivé. J'ai vu certaines familles, elles, qui ont commencé à l'équipe nationale cadet, n'ont même pas fait 2. Elles sont parties directement à senior. J'ai compris que tu faut juste travailler dur. Tu viens te prendre, c'est comme ça.
En fléchissant, juste à pointer des pieds.
Sur un graffiti du petit stade où sont encadrés les jeunes apprenants, sont gravés les noms illustre volleyeur camerounais. Il est question de perpétuer la légende. William Ondo, entraîneur du type Messa Volleyball.
J'ai grandi à Messa. Le volleyball, c'est le sport phare de ce quartier. Beaucoup de grands noms du volleyball sont nés d'ici.
Comme qui?
Comme mon ami Dongo Gaël, qui aujourd'hui est un professionnel. Le grand Chamouch, même d'après le Code de France, il a vécu ici.
Le Cameroun est champion d'Afrique chez les dames et vice-champion chez les messieurs. Une réelle motivation pour le jeune Gérard.
Dans le
sait qu'on pourra promouvoir ce sport au Cameroun ici. Et il faut que quand on va promouvoir ce sport, il faut que nous soyons déjà là. Nous sommes déjà les grands joueurs ici.
Qui me rappelle les formes d'attaque qu'on a travaillé.
Chaque apprenant débourse 5000 francs CFA par séance. Il s'agit, dit-on, des frais de couverture d'assurance en cas d'accident. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et si aux États-Unis, l'administration Trump a annoncé cette semaine de nouvelles règles visant à refuser l'octroi de cartes de résident permanent ou la nationalité américaine aux immigrants légaux qui bénéficient de prestations sociales, de bons d'alimentation, d'aide au logement ou de soins subventionnés par la couverture Medicaid. Ces nouvelles mesures suscitent de nombreuses réactions. Le point dans ce reportage de Patsy Vidakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, reportage repris ici par Jacques Aristide.
Arturo Balbino est entré illégalement aux États-Unis il y a 14 ans. Il est marié à une Américaine et ses enfants sont nés ici. Son employeur, une entreprise de construction, lui a octroyé une lettre lui garantissant son emploi. Pourtant, en mars dernier, sa demande de carte verte a été rejetée. La raison, l'utilisation par sa famille de bons d'alimentation et de Medicaid, des prestations destinées aux ménages à faible revenu.
Je veux être optimiste et dire que tout va bien se passer pour que je sois de nouveau avec ma famille. C'est très difficile de penser que je ne pourrai pas retourner voir mes enfants.
D'autres immigrants considérés comme un fardeau pour les contribuables risquent de se voir refuser le statut légal. Ken Cuccinelli est directeur par intérim des services américains de l'immigration.
Le gouvernement du président Trump défend à nouveau les idéaux d'autonomie et de responsabilité individuelle en s'assurant que les immigrants soient capables de subvenir à leurs besoins et de réussir ici en Amérique. Notre mesure empêche les étrangers susceptibles de devenir une charge publique de venir aux États-Unis ou de rester ici et obtenir une carte verte.
Désormais, cela va toucher tout migrant qui reçoit une ou plusieurs aides sociales pendant plus de 12 mois sur une période de 36 mois. La mesure entrera en vigueur à la mi-octobre et concernera plusieurs centaines de milliers de personnes défavorisées. Cristobal Ramon est un expert en politique d'immigration au Bipartisan Policy Center.
Cette règle ayant trait à la charge publique a d'ores et déjà dissuadé certaines personnes d'essayer d'accéder aux aides sociales, simplement parce qu'elles craignent d'être détectées par les autorités et en ce qui concerne, par exemple, les contrôles d'immigration ou d'être ciblées.
Le président Donald Trump est candidat à la présidentielle de 2020. Sa fermeté en matière d'immigration est bien vue par ses supporters, d'après Cristobal Ramon.
Pour ses partisans, c'est vraiment une victoire pour le président, quelque chose dont il pourra se vanter à l'avenir, surtout si les démocrates continuent à dire qu'ils veulent étendre les aides sociales aux immigrés clandestins.
Les nouvelles règles n'affectent pas les programmes d'immigration à caractère humanitaire pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Elles prévoient également des exemptions pour les victimes de la traite humaine et de violences domestiques. Elles ne touchent pas non plus l'immigration familiale, car les citoyens qui parrainent des membres de leur famille pour une carte verte doivent déjà prouver qu'ils peuvent subvenir aux charges financières.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.